Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Clémentine a découvert sa grossesse surprise à 23 ans. Elle commençait son premier job et suite à la nouvelle, sa période d'essai n'a pas été reconduite. La grossesse se passe bien, les échographies sont bonnes et l'accouchement se déroule aussi plutôt bien. Les nouveaux parents sont les plus heureux du monde, mais suite aux premiers soins, le mari de Clémentine revient bouleversé. Jean, leur bébé, a son petit pied gauche très tourné vers l'extérieur et avec seulement 4 orteils. Jean va devoir subir une batterie d'examens pour vérifier que cette malformation n'est pas accompagnée d'autres malformations. Puis ce sont les rendez-vous chez le kiné qui vont s'enchaîner pendant 3 mois avant que le diagnostic tombe. Jean a une agénésie du péroné et il y a 2 façons possibles de le soigner. Soit par des opérations à répétition, soit par l'amputation. Dans cet épisode, Clémentine nous raconte la découverte de la malformation de son premier bébé, son entrée dans la maternité, le choix difficile qu'elle a dû faire avec son mari et le quotidien de son adorable petit Jean depuis l'opération. Bonne écoute.
Bonjour Clémentine.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Eh bien, merci à toi d'avoir pensé à nous et je suis très heureuse de pouvoir te raconter notre histoire depuis l'arrivée de Jean dans nos vies.
Alors justement, revenons un petit peu avant son arrivée. Toi, quel regard tu avais sur la maternité avant de devenir maman? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours souhaité plus jeune ou pas du tout?
Alors en fait, oui, on va dire que je me disais que j'allais avoir des enfants un jour ou l'autre, mais c'était pas du tout... c'était pas du tout dans mes objectifs, on va dire, tout de suite. Bah, quand j'ai eu Jean, j'avais 23 ans, là j'en ai 24. Et en fait, moi, je disais toujours, oui, plus tard, on verra, quand j'aurai 28, 30 ans. Mais en fait, je me voyais pas du tout avoir un enfant tout de suite. Et puis, il y a eu Jean qui est arrivé, par surprise, on va dire. Ouais. Bah, j'étais déjà avec mon compagnon depuis... là, ça fait 10 ans, là, en août, donc ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble. Et puis, Jean est arrivé comme ça, par surprise. Et puis, on s'est dit, qu'on va le garder. Au début, ça a été... c'est une question qu'on s'est posée, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était vraiment tellement pas dans nos projets... Ouais. Et puis on s'est dit, on se connaît tellement bien ensemble, ça serait vraiment bête de ne pas le garder. Et maintenant qu'il est là, c'est qu'il devait arriver. Donc on l'a gardé.
Et alors, comment t'as su que t'étais enceinte?
Comment j'ai su? J'ai fait un test. Alors avant, c'est juste un retard de règles banal. Et puis, j'ai fait un test qui était positif. Et là, je suis tombée des nues. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, on ne va pas dire qu'on a accueilli la nouvelle en sautant de joie, quoi. Parce que, franchement, c'était vraiment pas dans nos plans. Moi, je venais à peine de finir mes études. Je venais de trouver un CDI. J'étais encore en période d'essai. C'était pas du tout dans nos plans, quoi. Et puis, en fait, au bout de quelques jours, on a réfléchi et puis on s'est dit que on allait le garder et qu'il était là. Et puis voilà, il y avait plus d'autres options pour nous. C'était évident qu'on allait le garder.
Et comment ça s'est passé à ton travail alors, quand tu leur as annoncé la nouvelle ?
Enfin, c'est pas forcément une super expérience parce que. En fait, c'était un travail. J'avais 3 heures de route par jour, donc 1h30 aller, 1h30 retour. Donc déjà, c'était quand même assez loin. C'était un travail, avec quand même pas mal d'horaires, tout ça. Et moi, quand j'ai appris ça, en fait, j'étais tellement chamboulée que je me voyais pas leur cacher. Parce que souvent, on dit, faut attendre 3 mois, etc. Mais moi, en plus, à cette époque-là, je fumais, donc avec mes collègues, tout ça. Donc, d'un seul coup, j'ai arrêté. Enfin, je me voyais pas leur cacher, en fait. Et du coup, je leur ai expliqué tout simplement. Et j'étais encore en période d'essai. Et ils n'ont pas reconduit ma période d'essai. Donc, après, bien sûr, d'un côté, je peux comprendre aussi, toutes les... Enfin, je veux dire, j'allais pas faire 3 heures de route concrètement en train et tout, en étant enceinte. Enfin, mais aussi d'un autre, je l'ai mal vécu, quoi, quand même. Après, ils m'ont dit aussi que c'était pour d'autres raisons, donc voilà. Voilà, c'était pas forcément une super expérience, mais en fait, maintenant, je le prends plutôt bien. Enfin, je me dis que ça m'a permis d'avoir vraiment une grossesse. Tranquille, je travaillais pas, j'ai pu vraiment profiter de ce moment-là, quoi, qui est quand même. C'est quand même quelque chose à vivre, donc finalement, je suis plutôt contente, entre guillemets, de pas avoir dû aller au travail à cette période-là.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse ?
Eh bien, la grossesse s'est super bien passée, mis à part la période du Covid, où du coup, ma famille, tout ça, j'ai pas pu les voir autant que je voulais, donc c'était vraiment, c'était particulier en fait, puisque une fois que je les ai vus, j'avais déjà un gros ventre, et alors qu'ils m'avaient pas vue pendant un moment... Donc c'était assez particulier quand même, c'était aussi une période de stress, c'était le début du Covid, on savait pas trop ce qui se passait, tout ça, donc on était un peu stressés avec tout ça, mais sinon j'étais vraiment du coup à la maison, on bougeait pas, et donc finalement j'étais vraiment couvée, on va dire, et bon, du coup ma grossesse s'est très bien passée, et en fait toutes les échographies tout à chaque fois tout était ok, tout se passait bien, donc franchement une grossesse idéale, on va dire.
Et alors, le jour de la rencontre avec ton petit chéri Jean,
ouais, et
comment ça s'est passé?
Et donc Jean est arrivé le 28 juin 2020. Et donc l'accouchement, ça a été très long, parce que toi qui m'ont posé la péridurale, mes contractions ont vraiment diminué, et donc ça a duré des heures et des heures où mon col ne se dilatait pas, et donc ça a été très long, et l'accouchement aussi en lui-même était long, et a fini par une épisiotomie, mais enfin j'en garde quand même un bon souvenir. Et à la rencontre de Jean, c'était génial, quoi. Ils me l'ont posé sur moi, on était avec mon compagnon, enfin émerveillés par cette petite bouille. ils me l'ont posé sur moi, ça a duré combien de temps, pas très longtemps en fait, ils me l'ont mis sur moi pour qu'on puisse le découvrir. Et puis il est parti avec Louis, donc mon compagnon, dans la salle à côté pour faire les premiers soins et pour mettre son petit pyjama. Et ça me paraissait bizarre parce que, en fait, à ce moment-là, plus personne ne me disait rien. En fait, je savais qu'à ce moment-là, il le pesait, tout ça. Et j'entendais que dans la salle à côté, on parlait, tout ça. Et il y a eu un petit espèce de moment où je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi il ne me le ramène pas, pourquoi on ne me dit pas, il pèse tant, tout ça. Et puis Louis, donc mon compagnon, me l'a ramené. Et en fait, il me l'a ramené en pleurant et en me montrant donc son petit pied qui était, en fait, il m'a dit, il y a un petit souci à son pied, on ne sait pas ce qu'il y a. Son pied était de côté, en fait. vraiment, on voyait que, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il partait sur le côté extérieur, donc ça se voyait, quoi. Et il avait que 4 orteils. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on tombe des nues, mon compagnon pleurait, donc moi, je me suis mise à pleurer, et puis, après, je l'ai pris, et j'ai dit, c'est rien, quoi, ça va aller, c'est mon bébé, et ça va bien se passer, quoi, donc... C'était très bizarre parce qu'au final, personne ne savait nous dire vraiment ce qui se passait. Et donc nous, on était là dans un mélange d'émotions entre se dire « c'est tellement merveilleux, il est tellement beau » et puis d'un autre côté se dire « mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi de ça, quoi? Qu'est-ce qui nous attend ?» Donc c'est vrai que c'était vraiment un peu... un mélange d'émotions très 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 bizarre. Et à ce moment-là, les sages-femmes nous ont dit on va faire passer un médecin, il va venir voir. Et donc voilà, on se retrouve tous les trois avec Jean dans la salle et puis à se poser plein de questions. Je me souviens, Louis me disait il va pas pouvoir marcher, ses copains vont se moquer de lui ou des choses comme ça. C'est des choses qui, enfin, des idées qui nous viennent en tête, quoi, tout de suite quand on voit ça. Et je sais pas pourquoi moi j'ai pas eu ces appréhensions là. Je me suis tout de suite dit que ça allait aller, que dans ma tête, il allait marcher, il allait courir, tout allait bien se passer. J'avais cette intuition-là que ça allait aller, quoi. Donc, c'est vrai que je me suis pas vraiment inquiétée. En fait, j'avais mon bébé, il était en pleine santé. Je sais pas comment dire, mais j'étais trop heureuse d'avoir mon petit bébé pour m'inquiéter. Voilà. Ça, c'était les premiers instants, un peu de chamboulement.
Ouais. Au bout de combien de temps le docteur est passé pour vous parler?
Ça a été très vite. On était encore en salle d'accouchement. Donc, il y a un premier médecin qui est passé. Et on voyait en fait qu'il savait pas trop nous dire... Il disait, ça ressemble à un pied beau, mais normalement, le pied beau, c'est à l'inverse, ça rentre vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, tout ça. Et il nous disait, il va falloir voir si c'est pas lié à d'autres malformations, parce que souvent, quand il y a une malformation d'un membre, ça peut être lié à d'autres malformations diverses et variées. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé une batterie d'examens. Enfin, Jean a dû passer alors des radios et des échographies de son cœur, de sa tête, de tout. En fait, on avait plein de rendez-vous. Tout de suite, en fait, alors qu'il venait de naître, quoi. Donc,
juste après l'accouchement.
Ouais.
Vous étiez encore dans la salle, ils l'ont emmené.
On va dire pas juste après l'accouchement, je sais pas, peut-être le lendemain ça a commencé, quoi. Et donc il y a eu différentes radios, échographies. À chaque fois, on se disait pourvu qu'ils trouvent rien, une échographie du cœur, on se disait, c'était vraiment un moment, on se disait mon Dieu, j'espère qu'ils vont rien trouver. Alors ils regardaient, on était là, ils ont vu quelque chose, ils ont pas vu quelque chose, c'était pas évident. Et puis en fait au bout de 3 jours après l'accouchement, ils nous ont transférés dans un hôpital à Lille pour aller voir en fait un chirurgien orthopédique qui était spécialisé dans les malformations du coup au niveau des jambes, des pieds. C'est là où on a eu le diagnostic, donc aux 3 jours après l'accouchement. Donc on est arrivé à Lille et donc le chirurgien a regardé, a examiné la jambe et le pied de Jean. Et puis tout de suite, il a dit « j'ai l'impression qu'il manque un os ». Donc ensuite, il est parti regarder la radio et quand il est revenu, donc c'est là qu'il nous a annoncé que Jean avait une agénésie du péroné, donc c'est-à-dire que le péroné n'existe pas dans sa jambe gauche. Et il lui manque également un rayon, c'est-à-dire un orteil en fait. Et donc il nous a expliqué que c'était une malformation rare et qu'il y avait différentes possibilités selon son évolution. Et donc, il ne pouvait pas nous dire tout de suite quel était le protocole à suivre parce que c'était encore flou, il était encore trop petit. Donc, à ce moment-là, il nous a quand même dit que dans le pire des cas, ça pouvait être une amputation.
D'accord.
Donc, trois jours après l'accouchement, donc ça a été quand même... ça a été dur. Ça a été dur quand il nous a dit ça. Il nous a dit on va faire du kiné, on va essayer de remettre son pied dans l'axe, etc. Et il nous a dit dans le pire des cas ça peut arriver parfois qu'on en vienne à une amputation du pied. Et donc moi à ce moment-là et avec Louis on s'est dit enfin ça c'est le pire des cas. Ça va pas être pour Jean, on va faire tout ce qu'il faut, on va faire les séances de kiné, etc. Et puis voilà. Donc pour nous, à ce moment-là, c'était vraiment pas... on s'imaginait vraiment pas que c'était l'option qui allait convenir à Jean, l'amputation. Enfin, en fait, on n'avait pas... je pense qu'on pouvait pas, à ce moment-là, se dire ça, quoi. C'était trop tôt. Et donc, on est reparti de là avec une prescription. On devait faire 4 fois par semaine du kiné, tout de suite en fait, commencer tout de suite dès la rentrée à la maison avec Jean. Donc on est tombé sur un super kiné qui venait à domicile, etc. pour faire donc en fait des massages au niveau de son pied pour assouplir la peau et pour venir essayer de remettre le pied le plus possible dans l'axe. Et Jean avait aussi donc une attelle qui maintenait le pied dans l'axe le plus possible. Donc ça aussi, donc ces 3 jours, il a eu une attelle qui devait mettre 22 heures sur 24. Donc il fallait juste l'enlever pour le bain. Sinon, il avait toujours une attelle. Voilà, on est parti là-dessus, donc on s'est mis à fond dans le kiné. Et puis, on devait revoir le chirurgien 3 mois plus tard. Donc, en attendant, on s'est mis à fond dans le kiné. Le kiné lui-même qui avait jamais vu ce type de malformation, donc, qui faisait quand même tout ce qu'il pouvait. C'était un peu étrange parce que personne n'avait jamais vu cette malformation-là. Donc même les professionnels qui étaient censés nous aider, entre guillemets, étaient un peu dépourvus, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu... On se sentait un peu seul au monde, quoi.
Et toi, donc, c'est ton premier bébé. Comment se passe le retour à la maison pour toi en tant que nouvelle maman? Est-ce que tu te sens tout de suite à l'aise dans ce nouveau rôle?
Alors, ça a été compliqué. Ouais, je pense que comme beaucoup de mamans, c'est tellement un chamboulement, mais total de tout. En fait, on croit qu'on va rentrer chez nous et puis reprendre nos petites habitudes d'avant, alors que pas du tout. Il y a plus rien qui est comme avant. Notre corps est complètement sans dessus-dessous. Et puis, Jean, en fait, avait un gros reflux par-dessus tout ça. Et donc, ça a été, sincèrement, ça a été abominable, le reflux, qui dure encore aujourd'hui. Mais bon, il a un traitement. Ça a été vraiment... ça, c'est ce qui nous a pris aussi, franchement, toute notre énergie, parce qu'on ne dormait pas, il ne dormait pas... C'était sans cesse. Mais ça a été du retour de la maternité jusqu'à ces... vraiment le dur du reflux, ça a été jusqu'à ces... même encore à 9 mois, il était... très compliqué. Encore aujourd'hui, je l'endors dans les bras, donc c'est... Donc le retour de maternité, bon bah ça a été un grand chamboulement, il a fallu tout réapprendre. Et puis le manque de sommeil, je crois que c'est le pire de tout quoi. C'est même pas le manque de sommeil, c'est qu'on dort quasiment pas quoi. Donc ça a été vraiment très dur. Et donc à ça, s'est ajouté le kiné toutes les 4 semaines, plus les rendez-vous à l'hôpital qui est du coup à 1 heure de chez nous, plus tous les rendez-vous médicaux. Ouais. C'était chargé, on va dire. Très chargé.
Ouais. Et alors, comment ça a évolué au bout de 3 mois de kiné ?
Donc en fait, le kiné, ça se passait très bien. Et il nous disait, même lui, qu'il voyait une évolution, que la peau était quand même beaucoup plus... beaucoup moins rigide, que le pied, il se replaçait mais un peu plus dans l'axe, tout ça. Donc on avait quand même de l'espoir que ça puisse bien se passer. Mais en même temps, pendant ces 3 mois, on s'est renseigné, on a essayé de trouver par tous les moyens des personnes qui avaient vécu la même chose, tout ça. Et ça, ça a été aussi compliqué parce que c'était compliqué de trouver du coup des personnes qui avaient vécu la même chose. Et donc, on a envie en fait de trouver un peu des repères, de se dire ça, on va plutôt partir vers cette direction-là ou celle-ci. Et donc, on s'est renseigné. Et bon, c'est vrai qu'en me renseignant, je me suis rendu compte que fallait peut-être imaginer l'amputation comme une réelle solution, quoi. Parce que de plus en plus, je me rendais compte que ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué, quoi. Donc... on n'était pas certains de ce qui allait se passer, mais on gardait tous les deux en tête l'amputation, quoi. Et puis, donc, il y a eu ce rendez-vous à 3 mois. Et c'est là où donc, le chirurgien nous a dit qu'il y avait 2 solutions pour la suite. Donc, la première, c'était un processus d'allongement de la jambe. Donc c'est un processus très, j'aurais presque envie de dire barbare, c'est des sortes de clous en fait qu'on vient mettre en haut de la jambe et en bas de la jambe avec tout quelque chose autour de la jambe pour en fait allonger la jambe au fur et à mesure. Donc ça dure sur plusieurs mois et à chaque fois on doit visser un peu pour allonger la jambe. Enfin, c'est assez barbare, je trouve, et donc le chirurgien nous prévient que cette solution là ça engendre dans 100% des cas des infections de la jambe, que c'est un processus qui se démarque vers 8-12 ans environ. Donc ça veut dire qu'avant cet âge-là, Jean aurait eu une attelle, enfin en fait un sorte de deuxième pied en dessous de son pied pour pouvoir essayer de marcher quand même, quoi, tant bien que mal, parce qu'en fait il a aussi, il a aussi la jambe plus courte que l'autre du coup. Dû à son agénésie, la jambe gauche est plus courte que la jambe droite. Donc c'était soit cette solution d'allongement de la jambe et aussi quelque chose pour bloquer la cheville. Et tout ça sans être certain qu'à la fin, on arriverait à un résultat qui serait un minimum convenable, c'est-à-dire qu'il puisse marcher convenablement, courir. Ça, en fait, il y avait aucune certitude sur la finalité de cette option-là. Et la deuxième option, c'était l'amputation du pied, en fait, au niveau de la cheville. Et le chirurgien, donc, qu'on voyait à Lille, la meilleure solution, c'était l'amputation. Aussi bien pour la vie de Jean plus tard, c'est-à-dire même tout de suite en fait, qu'il puisse apprendre à marcher, je dirais presque comme tous les enfants au même âge, puis ensuite courir, enfin essayer d'avoir une vie la plus facile entre guillemets possible par rapport à l'autre solution qui l'aurait amené à être toujours dans les hôpitaux. Peut-être même en fauteuil roulant, avec ce processus d'allongement de la jambe, très contraignant, etc. Donc,
ouais. Là, il vous annonce ces deux choix, ces deux possibilités, entre guillemets. Ouais. Comment, déjà, toi, tu accueilles cette nouvelle et comment vous prenez la décision, au bout de combien de temps?
Alors, en fait, comment on prend la nouvelle? En fait, à ce moment-là, on avait déjà eu le temps, je crois, de faire un peu notre chemin et on se doutait qu'il proposerait cette solution-là. Et pour nous, en fait, quand on est sorti du rendez-vous, on s'est dit, on se doutait que ça allait en arriver là et on s'est dit, nous, on veut la meilleure solution pour Jean. Et donc, je pense que déjà, à la sortie de ce rendez-vous-là, on avait pris la décision que ça serait l'amputation. Parce que pour nous, c'était la solution pour Jean, pour qu'il puisse vivre sa vie comme il l'entend et pas vivre une vie, en tout cas, toute son enfance dans les hôpitaux. Pour un résultat où on était certain de rien. Et donc, on est quand même allé voir un deuxième chirurgien à Paris, à l'hôpital Necker, pour avoir un deuxième avis, parce que bon, on s'est dit, il faut quand même au moins avoir un deuxième avis. À l'hôpital Necker, donc le chirurgien, lui, avait pas un avis aussi tranché. Pour lui, il fallait envisager les deux possibilités comme étant deux réelles possibilités, que la première était aussi envisageable et que pour l'amputation, lui, il voyait plutôt une amputation plus tardive, vers 2-3 ans, alors que le chirurgien de Lille voyait plutôt une amputation vers 9 mois. Donc voilà, après on se retrouve tous les deux à devoir prendre la décision si oui ou non on va amputer notre fils, puisque en fait il n'y a pas d'avis tranché, donc c'était à nous de prendre la décision. Et puis je pense que ouais, on l'a pris très rapidement en fait, la décision. Pour nous, c'était la bonne décision à prendre, c'était celle-là. Et puis
vous aviez pu finalement rencontrer des gens ou être en contact avec des gens qui avaient vécu la même chose ou pas?
Ouais, alors je sais pas à quel moment on s'est mis. On a en fait connu l'association ACDA, qui est une association du coup pour les agénésies des membres supérieurs et inférieurs. Donc je l'ai trouvé par moi-même sur Facebook. Et donc au moment où on a eu le chirurgien qui nous a demandé, qui nous a proposé les deux solutions, j'ai mis un message sur le groupe Facebook de cette association en demandant aux parents qui avaient déjà vécu ça des avis. Et puis là, du coup, j'ai pu commencer à discuter avec des parents donc d'enfants qui avaient été amputés. Il y avait aussi des parents, c'était un peu plus rare, mais dans le même cas, qui avaient choisi la première option, donc l'option des allongements. Donc on a pu discuter avec d'autres parents. Donc ça a été quand même, ça nous a beaucoup aidé, quoi, de voir que y avait d'autres enfants qui étaient passés par là et puis que ça se passait bien après l'amputation. Donc voilà, je crois que c'est du coup aux 6 mois, donc 3 mois après le rendez-vous avec ce chirurgien, où on a eu le rendez-vous avec le chirurgien et où on lui a dit qu'on prenait la décision de l'amputation à 9 mois. Du coup, l'opération a été programmée 3 mois plus tard. Ça a été très dur. À partir du moment où on a eu la date, je pense que c'était peut-être 1 ou 2 mois avant, on a eu la date précise de l'opération. Et là, ça a commencé à être très difficile, en fait, de voir l'échéance arriver et de se poser 1 milliard de questions. Ça a été une période très difficile moralement, on va dire.
Tu te disais quoi, toi?
J'avais surtout peur de ce moment-là, quoi, de l'opération. C'était... En fait, je savais qu'après l'opération, ça allait aller, qu'une fois que tout ça serait passé, en fait, j'avais un but, c'était le moment où il aurait sa prothèse et puis qu'il, voilà, quoi, que ce moment-là serait passé. Et donc, c'était de l'appréhension, quoi, surtout de l'appréhension du moment de l'opération, de devoir le laisser partir, tout ça, enfin... Ça a été très compliqué et c'est à cette période-là où j'ai commencé à en parler sur Instagram. Je sais plus, ça devait être peut-être un mois avant où j'ai vraiment... en fait, c'était un soir où j'arrivais pas à dormir et donc j'ai écrit tout ce qui me trottait dans la tête et puis j'ai fait un post Instagram sur mon compte personnel et... Et voilà quoi, j'avais besoin d'en parler parce que aussi on chemine chacun, Louis et moi, on a chacun notre cheminement pour arriver à l'opération et on n'était pas forcément au même moment, on n'avait pas forcément envie de parler au même moment ou des mêmes choses, etc. Donc parfois si moi j'avais besoin de parler, lui il avait peut-être besoin d'être tranquille et donc... Pour ça, à ce moment-là, moi, je me suis mis à... Il y a un moment où j'ai écrit juste ce que je pensais, tout ça, et où j'ai commencé justement en parler sur Instagram. Et là, j'ai eu plein de retours positifs, hein, plein d'encouragements, tout ça, et ça m'a fait vachement de bien, quoi, d'avoir du soutien. Donc voilà. Et ensuite, on est arrivé à l'opération et... comme attendu, c'était très très dur. C'est le moment le plus dur de notre vie, quoi. Je pense ça a été très 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 compliqué de le laisser partir. Avant, il est pas endormi devant nous, donc il faut le laisser partir avec l'équipe soignante pour qu'ils aillent l'endormir. Et quand il nous a quittés, il était tout souriant, tout ça. Et en tant que parent, quand on sait ce qui l'attend, quoi, c'était très compliqué, très très compliqué, quoi, à ce moment-là. Et...
Donc là, c'est une opération qui dure combien de temps? Comment ça se passe?
C'est assez rapide. On est rentré le mardi soir à l'hôpital et on est sorti le vendredi. Donc c'est très très rapide, même pas une semaine. Et Jean en fait a récupéré très 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 vite en fait. On s'attendait jamais à ce qu'il récupère aussi vite donc. La sortie a été quand même a été très rapide. Ça s'est bien passé quoi. L'opération s'est très très bien déroulée. Hein. Le chirurgien a réussi à faire tout ce qu'il voulait faire. Donc ça s'est très bien passé. Et le retour, ce qui a été très difficile aussi, c'est le retour de l'opération. Parce que Jean était dans un état de peur totale. En fait, il comprenait pas ce qui arrivait. Donc, nous, en fait, on s'attendait à ce qu'il rentre 2 heures plus tard. On nous avait dit, ça sera encore, il faut encore attendre 2 heures. Et puis, on l'a vu finalement d'un seul coup, ils nous l'ont ramené dans un lit. Donc, lui, il était déjà assis. Et puis, il regardait un peu partout. Et quand il nous a vus, il s'est mis à pleurer, à vouloir revenir sur nous, tout ça. Donc, l'équipe soignante me l'a tout de suite mis sur moi et sauf qu'en fait moi je savais plus quoi faire parce que il avait un gros pansement en fait il avait plus de pied quoi c'était impressionnant il avait un gros pansement et puis il était là il pleurait et en fait d'un seul coup je savais plus je savais plus comment le calmer, j'avais peur de lui faire mal etc. Et donc, pour moi, ça a été un moment aussi très compliqué parce que, c'était un moment très compliqué. Il fallait que je réapprenne à le connaître, entre guillemets, avec ce nouveau corps, avec, cette amputation. Et donc, quand ils l'ont mis sur moi, je me suis mise à pleurer aussi. Et donc, c'est Louis qui l'a pris, qui a essayé de le calmer. Et puis après, ils l'ont mis ils l'ont mis sous morphine parce que bah il était trop énervé et trop, mais ouais, du coup le retour de l'opération a été aussi très 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 dur. Ensuite ça s'est quand même très bien passé parce que bah il a eu de la morphine la première nuit après l'opération et la première journée après l'opération. Et ensuite, c'était tout. Il était avec du Doliprane et de l'Advil, mais c'est tout, quoi. Donc, ça a été très rapide. Très rapidement, il a retrouvé son sourire. Il recommençait à jouer, tout ça. Donc, vraiment, il s'en est remis plus vite que nous de son opération. Pour lui, ça a vraiment été... Ça s'est vraiment bien passé et c'est vraiment étonnant même de voir à quel point ça s'est bien passé pour lui, quoi. Après, je pense que il y a quand même des choses qui se passent intérieurement en lui et qu'on peut pas voir. Je pense qu'il a ressenti toutes ces choses-là quand même d'une façon, mais c'est vrai qu'il s'en est remis très très vite, quoi. Et donc on est sorti de l'hôpital le vendredi et puis voilà, après il y a eu une infirmière qui passait tous les deux jours pour changer le pansement. Et alors, du coup,
le voir sans son pansement, parce que tu parlais justement de réapprivoiser un petit peu son nouveau corps.
Justement, c'était une question que je me posais parce que quand il nous l'a ramené, il était avec son pansement et le prochain pansement c'était deux jours après, donc quand on était encore à l'hôpital. Et donc je m'étais dit je verrai si j'arrive à regarder ou pas. J'étais pas sûre de pouvoir regarder, d'avoir enfin. Et en fait, quand ils ont fait son pansement, donc ils lui ont enlevé le pansement. J'ai trouvé que c'était très bien fait et ça m'a pas choquée en fait. Je m'attendais plus ou moins à ça et je m'attendais, je pense, à pire parce que forcément on se fait des images, etc. Et donc, au contraire, on se l'est dit avec Louis, on trouve que c'était bien fait, quoi. Donc ça a été plutôt une bonne surprise. Après, quand on a fait le pansement, on s'est dit c'est bien fait, ça a été plutôt bien à ce moment-là.
Et alors le retour à la maison, là, c'est toi qui devais prendre le relais pour les soins, non? Tu disais qu'il y avait une infirmière qui passait
C'était une infirmière qui passait tous les deux jours, juste pour faire le pansement, mais en même temps, comme le pansement, Jean bougeait dans tous les sens, donc le pansement s'enlevait tout le temps. Donc au final, c'était moi qui le refaisais tous les jours quasiment. Mais ça a été aussi très vite, hein. Au bout de deux semaines et demie, on a pu enlever le pansement. Et donc voilà, il n'y avait plus que la cicatrice, mais il n'y avait plus de pansement, quoi. Donc ça a été... Ouais, ça a été très vite. Et puis, ça a été le moulage pour la prothèse. Et voilà, ça s'est enchaîné très vite. Je sais plus exactement à quel âge il a eu la prothèse. Un mois après l'opération, il avait déjà sa première prothèse. Donc, ça a été très très vite en fait.
Oui, parce que là, même s'il ne marche pas encore, en fait, il faut quand même qu'il ait cet appui pour faire les gestes quatre pattes, préparer sa levée.
Ouais. Après l'opération, du coup, il a dû s'habituer finalement à plus avoir deux pieds. Donc, pour lui, sa jambe, il pouvait la mettre un peu dans tous les sens, tout ça, parce que il y avait plus de pieds qui gênaient, quoi, entre guillemets. Puis après, une fois qu'il a eu sa prothèse, il a fallu réapprendre à avoir à nouveau ce pied, du coup, qui le gênait un peu, tout ça. Et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment, son pied, ça fait partie, sa prothèse, ça fait partie de lui. En fait maintenant il se met debout, hein. il marche, si on le tient il marche, donc il en a vraiment besoin. Parfois, le matin, si je lui ai pas encore mis la prothèse, que je le mets dans le parc, je vais voir qu'il va râler un peu parce que il peut pas s'appuyer comme il veut, tout ça. Et donc euh, En fait, je vois qu'il veut que je lui mette sa prothèse. C'est vraiment, bah, maintenant pour lui, ça fait partie de son quotidien, quoi, déjà. Donc, bah, c'est.
Il a quel âge, là?
Là, il a 13 mois. Il a 13 mois et bah, il se débrouille super bien. On pense qu'il va bientôt se mettre à marcher parce que quand on le tient, il gambade partout. Donc, enfin, c'est même étonnant, quoi. Enfin, c'est super. C'est super.
Comment ça se passe justement avec la prothèse? Est-ce que enfin, vous l'enlevez à quel moment, en fait?
Alors en fait, bah, la prothèse, il la garde toute la journée. Si vraiment il fait chaud aux siestes, je vais lui enlever pour qu'il soit à l'aise. Mais la plupart du temps, je lui laisse même à la sieste. Et donc on lui enlève le soir quand on va lui prendre son bain. Donc après le bain, si on est proche du coucher, je lui remets pas. Donc je lui donne son biberon et... Après, on va le coucher. Par contre, si après le bain, il reste encore une heure avant d'aller le coucher, là, je vais lui remettre la prothèse avec le pyjama pour qu'il puisse bouger. En fait, il l'a tout le temps, sauf la nuit. La nuit, je lui enlève.
D'accord.
Mais sinon, bah, ouais, sinon, il peut pas... Enfin, il en a besoin, quoi, pour bouger.
Ouais. Et comment ça va se passer pour justement, il va falloir changer la prothèse assez régulièrement.
Ouais, il va falloir la changer. Pour l'instant, tant qu'il est petit, normalement, c'est tous les 3 mois environ. Comme il grandit assez vite. Et puis après, ça va s'espacer tous les 6 mois. Et en fait, c'est en fonction de. Voilà, en fonction de comment il va grandir, quoi. Mais oui, dès qu'elle est plus adaptée à sa taille, on la change. Et on a un super orthoprothésiste aussi, donc il est très très à l'écoute. Ça, il n'y a pas de souci.
Et pour tout ce qui est crèche, scolarité, ça va finalement rien changer pour lui ou il va y avoir des démarches particulières à faire?
Bah alors là, en fait, j'en sais rien parce que pour l'instant, donc c'est moi qui le garde. Et justement, bah aujourd'hui, justement, j'ai appelé une crèche pour savoir s'ils avaient de la place parce que j'aimerais qu'il y aille de temps en temps au moins pour s'habituer à être avec d'autres enfants, tout ça. Et bah en fait, je leur en ai même pas parlé. Je sais même pas si je leur en parle avant. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment... je veux dire, il va aller en crèche, c'est vraiment un petit garçon comme les autres. Il n'y a aucun soin de plus à lui apporter. Donc en fait, je ne sais pas du tout. Je verrai du coup à ce moment-là avec la crèche. Bah, je vais expliquer quand même qu'il a une prothèse. Mais bon, pour moi, vraiment, je ne vois pas du coup ce que ça change par rapport à notre enfant. Vraiment, enfin, à part le soir ou quand il va se coucher, nous, on lui enlève sa prothèse. Mais sinon, dans la journée, ça change vraiment rien, quoi, pour moi. Donc, je sais pas, en fait, comment ça va se passer au niveau de la crèche.
Et t'as dû lui faire un dossier de handicap ou pas du
ouais.
tout?
Ouais, on a fait un dossier à la MDPH. Et on a eu une réponse là bah, assez rapidement. Donc j'ai même été étonnée parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui galère pas mal du coup avec la MDPH à avoir leur réponse, tout ça. Et nous, on a eu une réponse rapidement. Et donc ils ont reconnu du coup le handicap à... donc supérieur ou égal à 80%. Donc enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire pour eux, mais... Ouais, donc on a fait le dossier MDPH.
Et tu parlais récemment, là, t'as fait un post où tu parlais du regard des gens sur cette prothèse, justement. Mmh. Comment ça se passe au quotidien
ben
à
alors,
l'extérieur
bon, c'est assez marrant, en fait, parce que souvent les gens sont... En fait, au début, quand j'en avais pas de prothèse... Bah, quand les gens tombaient à regarder, parfois, enfin, on a des regards vraiment, enfin, en fait, les gens tombent de nu, ils tombent des nus, en fait, on voit jamais un bébé sans pied, donc je peux comprendre, en fait, totalement le regard des gens. Pour ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo de ça, mais c'est, enfin, je le dis avec humour, quoi, ça me dérange pas, en fait. Je veux dire, ça me dérange pas du tout le regard que les gens portent sur Jean, tant que c'est bienveillant, en fait. De toute façon, enfin, je me dis, on est passé par ces épreuves, c'est pas pour le cacher, j'ai pas du tout envie de le cacher. Pour moi, c'est même, enfin, j'en suis fière du parcours qu'on a eu, du parcours que Jean a eu, et pour moi enfin, qu'on le voit avec sa prothèse, etc. Pour moi, c'est une grande fierté, et je pense qu'on doit en être fier, quoi, de tout ce qu'il a réussi à accomplir. Donc le regard des gens, ça m'amuse plus qu'autre chose, mais c'est vrai qu'il est très présent en fait. Enfin, si on va se balader, il y a pas longtemps, on était parti se balader à la mer avec de la famille et puis Jean qui était en poussette et moi j'étais un peu plus loin devant et en fait j'entendais tout ce que les gens disaient après être passé devant Jean en fait et donc j'entendais oh, t'as vu le bébé il a une jambe de bois ouais enfin j'entendais tous les gens discuter en fait mais après ça me dérange pas enfin je veux dire c'est normal moi si je passe à côté d'un bébé qui n'a pas de pied ou il a une prothèse bah moi aussi je vais en discuter quoi donc c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, le regard des gens. Je voudrais juste pas que... Enfin, c'est aussi pour ça que je fais cette page Instagram. C'est aussi pour éveiller, je veux dire, les regards de tout le monde. Et enfin, que tout le monde se... Enfin, je veux dire, le monde, il y a tellement de choses différentes à voir. Faut pas non plus... Je voudrais pas que Jean subisse comme ça des regards toute sa vie, tout le temps. Enfin, je pense que ça peut être lourd au bout d'un moment. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette page Instagram. C'est aussi pour montrer que ça existe et que c'est cool aussi la différence, quoi. Et aussi, enfin, cette page Instagram, c'est aussi pour que d'autres parents qui sont dans la même situation puissent venir vers moi ou puissent juste regarder ce qu'on publie et se dire on n'est pas tout seul parce que moi quand j'étais avant l'amputation je cherchais en fait j'étais allée en fait, sur Instagram aussi je mettais des hashtags pour trouver agénésie du péroné des trucs comme ça et je voyais rien du tout je me disais mais c'est pas possible on est seul du coup c'est pour ça toutes mes photos maintenant je mets hashtag agénésie péroné et je me dis si une autre maman un autre papa va sur Instagram et tape comme moi j'ai fait à ce moment-là agénésie du péroné sur Instagram s'ils tombent sur les photos de gens et qu'ils se disent bon voilà quoi, juste pour se dire ça va aller et j'ai pas mal de témoignages, enfin de parents qui viennent me parler et qui me remercient de publier ça, que ça leur fait du bien ou qui viennent me demander, enfin juste des conseils ou me demander quel a été le parcours de Jean, tout ça, donc c'est aussi pour ça que je fais ça, donc voilà. Et j'ai eu aussi deux témoignages de personnes adultes qui ont en fait dont les parents n'ont pas choisi l'amputation pour eux et ont choisi l'allongement des membres tout ça et qui me disent que ça a été très difficile maintenant qu'ils sont adultes ils ont un regard aussi sur ce qu'ils ont vécu et que ça a été très difficile et que aujourd'hui en fait ils ont des grosses douleurs, des problèmes de dos. Y a une personne du coup qui doit finalement se faire amputer maintenant à l'âge adulte. Ça me conforte aussi dans mon choix. Ces témoignages-là, c'est ce que j'ai pas envie que. Enfin, je voulais pas que Jean vive ça en fait. C'est un parcours très difficile pour au final qu'on lui dise une fois adulte qu'il doit quand même se faire amputer. Je veux dire, ça sert à rien quoi.
Et alors aujourd'hui, le quotidien de Jean, ça va être c'est quoi ? Est-ce qu'il a toujours des séances de kiné ? Est-ce que il a toujours des rendez-vous médicaux ? Comment ça se passe ?
Ouais, donc là on est à 3 séances de kiné par semaine, ça continue quand même d'être assez prenant, on va dire. En fait, le kiné c'est pour à la fois il y a du massage de la cicatrice pour qu'elle reste bien souple, pour que qu'il y ait bien une circulation qui se fasse au niveau du moignon. Il y a toute une partie d'étirement de la jambe et aussi toute une partie psychomotricité, le faire marcher, lui faire grimper, faire évoluer sa stabilité avec sa prothèse. C'est encore pour l'instant c'est encore trois fois par semaine de kiné et le chirurgien on le voit tous les 6 mois. Donc là, on le verra, dans 4 mois, on n'a pas encore le rendez-vous. Et parce qu'il y a quand même toujours un suivi, parce que en fait le tibia de Jean est courbé. Donc ce qui fait que peut-être, faut voir aussi comment il grandit, comment ça évolue. Donc soit son tibia peut se remettre, en grandissant, peut se remettre plus ou moins droit et que ça ne pose pas de problème. Ou soit, s'il reste vraiment courbé et que ça s'aggrave en grandissant, il devra à nouveau subir une opération qui est de remettre le tibia droit, en fait. Donc ça, on sait pas encore. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours aussi un suivi avec le chirurgien pour l'instant.
Et toi, alors, au niveau du travail, puisque du coup, j'imagine que t'as pas repris depuis...
J'ai pas repris le travail. Même encore aujourd'hui, 3 rendez-vous par semaine, malgré tout, ça prend du temps et... Donc, à la limite, je pourrais reprendre à un mi-temps. Faudrait qu'il soit coordonné avec les rendez-vous, etc. Donc, pour l'instant, je reprends pas le travail. Heureusement, j'ai un complément. En fait, je suis considérée comme aidant familial. Donc j'ai un complément qui me permet... et puis, mon conjoint travaille. Donc on s'en sort, hein, ça va. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis sortie de mes études et puis voilà, quoi. Je suis un peu en stand-by, on va dire, niveau professionnel. Mais bon, je pense que c'est inévitable. Je veux dire, Jean, il a besoin de ses rendez-vous. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant. Et puis, ça va évoluer aussi. Les rendez-vous de kiné, normalement, au fur et à mesure, ils vont diminuer. Et puis, je verrai quel est le bon moment pour reprendre quelque chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, depuis ma grossesse, en fait, j'ai pas pu reprendre le travail.
Et alors, aujourd'hui, comment tu vas, toi, après tous ces bouleversements dans ta vie de femme, de nouvelle maman ?
On peut dire que ça va. Depuis que l'opération est passée, c'est vrai qu'on revit, entre guillemets, parce qu'on a plus... on avait un poids sur les épaules avant l'opération à se dire... à toujours angoisser, à toujours être dans le « qu'est-ce qui va se passer ?», etc. Et maintenant, on est vraiment... On est soulagé en fait que ça je pense la partie la plus dure soit derrière nous et maintenant on peut avancer quoi, on n'est plus dans l'incertitude, c'est fait, pour nous on a pris la bonne décision et donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux depuis que l'opération est passée quoi. Après, c'est sûr que il y a des hauts, des bas. À la base, moi, je me destinais pas à être femme au foyer tout de suite, là, à 24 ans, et à m'occuper que de mon bébé. Je suis contente. Et je sais que, la vie, elle est longue. J'ai tout le temps aussi de faire d'autres choses dans ma vie. Donc là, pour l'instant, j'apprécie le moment de voir Jean s'épanouir. S'épanouir, gambader partout et c'est super quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Tout. tout. ça m'a complètement transformée, je pense, du tout au tout. Enfin, du jour au lendemain, on a ce petit bébé pour qui on donne tout et voilà, qui devient en fait le centre de notre vie, le centre de nos préoccupations. Et donc, bah forcément, bah, ça a complètement tout bouleversé en fait dans notre vie. Mais c'est pas plus mal, je veux dire, c'est super ce qu'on a vécu. Et on vit des émotions fortes, mais qu'on n'aurait jamais cru qu'on pourrait vivre un jour, quoi, telles émotions pour un petit bébé. donc voilà, ça, je pense que ça change tout.
Ouais. Ça t'a rendu plus forte, cette épreuve?
Oui, je pense que je m'imaginais même pas être capable de vivre une telle épreuve. Et en fait, quand on est dedans, bah c'est tout, quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et puis on y va, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Oui.
Alors, c'est quoi pour toi être une maman lilloise ?
Bah, du coup, nous, en fait, l'arrivée de Jean, ça a été un gros chamboulement aussi dans nos vies. Et aussi, par rapport au Covid, on s'est rendu compte qu'on avait... À ce moment-là, on habitait en appartement, en ville. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie pour Jean de partir à la campagne. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a acheté une maison à la campagne et pour un peu aussi quitter la ville et se recentrer un peu sur l'essentiel, sur tout ce qu'on avait à penser avec Jean et d'être tranquille à la campagne. Voilà.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré où tu aimes bien aller avec Jean?
Où est-ce que j'aime aller avec Jean? Bah justement, j'aime beaucoup, c'est me promener dans la campagne, en plein milieu de nulle part, en poussette, juste être avec Jean et puis écouter la nature et me dire que on est super chanceux d'habiter à la campagne et au calme. Et donc voilà, je dirais que c'est oui, la nature et être en promenade avec Jean.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Les projets, c'est encore très tôt pour en parler. Après, en fait, je suis toujours en train de chercher ce que j'ai envie de faire. Ensuite, en fait, à la fois, je me dis que j'aimerais bien reprendre un travail. Et en même temps, je sais qu'au fond de moi-même, j'ai très envie aussi d'entreprendre, tout ça. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je réfléchis peut-être à créer... il y a un petit endroit... On a un petit endroit avec un étang, etc. Et avec mon compagnon, en fait, on pensait à créer peut-être des cabanes pour passer du coup plusieurs nuits, enfin pour créer en fait un endroit où on puisse du coup accueillir des personnes qui puissent passer des nuits dans cette nature. Donc ça, bon, c'est le tout début, on commence juste à en parler. Donc ça serait peut-être un de nos futurs projets, créer une petite cabane pour l'instant. Sinon c'est mettre aussi Jean à la crèche un peu pour me prendre un peu plus de temps pour moi, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est H24 Jean, c'est rendez-vous, etc. Donc j'ai aussi besoin de me recentrer un peu sur sur moi-même, sur ce que je veux faire aussi. Et donc voilà, après c'est aussi continuer cette page Instagram qui m'apporte beaucoup, en fait. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler, qui nous encouragent, ou alors qui viennent me demander de discuter par rapport à leur expérience aussi, ce qu'ils vivent. Et donc je trouve ça super. Et puis ça m'amuse aussi, ça me fait sortir aussi de mon quotidien. Donc c'est mon projet aussi, c'est de continuer cette page. Et puis voilà, de voir... les opportunités qui s'offriront à moi, on verra.
Merci beaucoup, Clémentine.
Ben, merci à toi. J'étais très, très contente de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis, voilà.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.